HRD Radio, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Juliette Sterwen, Barthélémy Avocat, le groupe NR, l'école IGS RH et Lefèvre Dalloz.
Bonjour à tous, bienvenue sur HRD Radio et bienvenue aux 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous le savez, réagissez sur nos réseaux sociaux. On y répond évidemment à tous ces messages que nous adorons. À mes côtés pour co-animer cette émission, Marc Sabatier, cofondateur de Juliette Sterwen, Philippe Martinez, président d'Adeco France et Sylvain Langelier, directeur général du Networking Premium Group. Bonjour à tous les trois.
Bonjour, bonjour Richard.
Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Jean-Sébastien Blanc, directeur général adjoint en charge des ressources humaines d'Engie. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Richard.
Alors vous êtes de Romans-sur-Isère. Est-ce que c'est important pour vous l'ancrage local ?
Ce qui est important, c'est une anecdote avec le fait qu'on passe à la radio aujourd'hui. C'est que là où j'ai commencé ma carrière dans la communication avant de finir dans les ressources humaines, puisque c'était une des premières villes où il y a une radio libre en 1980 après l'élection de Mitterrand. Alors ça fait un peu... Carbone 14.
Pour les plus jeunes, c'est plus dire.
Mais c'est un petit clin d'œil, et c'est ce qui fait que j'ai grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui, retrouver cette sensation d'être à la radio en direct.
Et on sent cette voix de radio. Hein.
Exactement, c'est un gros travail.
Ouais, vous avez 35 ans de carrière dans les RH. Qu'est-ce que vous avez vu changer, évoluer ?
D'abord, c'est un chiffre que j'aurais aimé passer sous silence, mais ce que j'ai vu
changer... On va la refaire.
Ce que j'ai vu changer dans le monde des ressources humaines, c'est que d'abord, quand j'ai commencé, on était chef du personnel. Et c'était un monde qui était beaucoup occupé par d'anciens militaires ou des juristes. Et j'ai vu évoluer cette fonction de quelque chose qui était plutôt une fonction support un peu silencieuse, orientée vers la paye, le dialogue social... le recrutement vers une fonction avec beaucoup plus de valeur ajoutée. Et aujourd'hui, c'est une fonction qui est généralement au comité exécutif, avec un vrai rôle, on galvaude le terme, mais de business partner, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on contribue au business en mobilisant la fonction RH.
Et les salariés, peut-être on peut dire aussi, ça a changé. C'est-à-dire que c'est eux qui choisissent leur boîte plutôt que l'inverse aujourd'hui.
Complètement. Le rapport au travail, on le vit toutes et tous tous les jours, le rapport au travail a profondément changé, ce qui fait que les entreprises ont cette obligation d'avoir un projet, d'avoir une offre, de se réinventer, d'être attractif. Et même si la loyauté reste importante, parce que finalement, on constate qu'on n'a pas tant de turnover que ça, et bien cette loyauté, elle doit se construire dans la durée. Et je pense qu'un des rôles du management et des ressources humaines, c'est de savoir créer cette histoire et créer cette aventure collective. Et avec l'évolution des modes de fonctionnement du télétravail, cette aventure collective est encore plus importante pour moi.
Bon, on va parler d'Engie. Engie, on a l'impression que tout le monde connaît, mais en fait, l'image est un peu floue quand même. Qu'est-ce que c'est, Engie ?
Écoutez, je vous jette pas la pierre. Moi-même, j'ai rejoint Engie il y a 3 ans. Quand on m'a parlé d'Engie, j'avais déjà une confusion entre Engie, EDF, le gaz, l'électricité. Bon, la réalité, c'est que c'est une entreprise extrêmement moderne qui est dans un secteur d'activité stratégique qui est l'énergie. Alors, dedans, il y a 5 métiers essentiels. Je vais aller très rapidement. On produit de l'électricité, on distribue de l'électricité et du gaz, on fait des services aux entreprises et aux personnes dans la performance énergétique et on vend de l'électricité et du gaz à 20 millions de particuliers dans 6 pays. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné ou à un autre, tous autour de la table, vous avez un contact avec Engie, soit parce que vous êtes client, soit parce que votre chaudière est maintenue par Engie, soit parce que votre gaz est distribué par Engie. Directement ou indirectement, on est dans votre vie tous les jours.
Combien de salariés aujourd'hui ?
97 000 dans 30 pays. Donc un grand groupe avec des résultats qui ont été annoncés la semaine dernière, qui sont des résultats excellents parce que nous avons été capables de produire beaucoup d'électricité dans nos 30 pays et de les livrer et de les remettre à disposition de nos clients. Donc, cette performance opérationnelle, cette performance de relation est une performance qui a été reconnue par les marchés et par nos résultats.
Bon, on va voir ça en détail. Marc.
Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Marc.
J'ai lu que Engie avait reçu le prix de l'indice FAS IAS pour son programme Link d'actionnaires salariés. Alors, en tant que passionné par le sujet du partage de la valeur, surtout convaincu, j'avais envie de vous entendre là-dessus. Pour la petite histoire, ce matin même, dans ces mêmes locaux, il y avait beaucoup de DRH. C'était réuni sur ce thème du partage de la valeur, donc on le prouve. Côté Engie, pourquoi est-ce que vous avez fait Link ? Qu'est-ce que vous en attendez comme conséquence, comme résultat ? Plus largement, au-delà des outils classiques de partage de la valeur, comme intéressement, participation et autres actionnariat salarié, qu'est-ce que vous pensez d'initiatives comme le dividende sociétal aussi ? L'évolution de la législation l'été dernier sur l'élargissement de la participation pour les entreprises à partir de 11 salariés. Bref, le partage de la valeur chez Engie.
3 questions en une, vous avez 3 heures.
Bon, ben c'est très bien. Écoutez, on va s'attaquer à tous les sujets. D'abord, le partage de la valeur pour un groupe qui fait des profits comme le nôtre, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est plus de 200 millions d'euros l'année dernière entre l'intéressement, la participation, l'abondement. Et l'actionnariat salarié, quelque chose que l'on a relancé voici 2 ans et qu'on va refaire cette année, c'est le prix que vous citiez, puisqu'on attache beaucoup d'importance, comme beaucoup de groupes, à trouver des formules qui permettent aux salariés à la fois de profiter de la croissance, de l'action et de la création de valeur, mais aussi de manifester, c'est une façon de voter. Hein. On fait des enquêtes d'engagement, mais à la fin, c'est une preuve d'amour. Quand un salarié sort Bien de sûr. L'argent pour investir dans une entreprise comme la nôtre, ça veut dire quelque chose. Mmh. On est extrêmement fiers de voir qu'on a eu plus de 31% de tous nos salariés dans le monde qui ont souscrit à ce plan d'actionnariat salarié. Et on est extrêmement fiers de voir qu'en France, ça a été plus de 40%. La France, c'est quand même notre maison mère. Donc, c'est super important pour nous. Après, sur les autres outils qui sont mis en place, je pense qu'à la base, ce qui est important, c'est qu'il y a un dialogue social quand il y a des partenaires sociaux, mais aussi un dialogue quand on n'a pas de représentation du personnel au sein d'une entreprise. Parce que la discussion autour de cette valeur du partage de sa génération, c'est quelque chose qui est assez fondamental pour moi. Et on a beaucoup de dialogues avec les partenaires sociaux, justement par rapport à ça, parce qu'on a besoin de partager le projet de l'entreprise et d'expliquer dans la masse de revenus que l'on génère quelle est la part qui va aux dividendes. Il faut être transparent avec ça. La part qui va au salaire, la part qui part aux impôts, la part qui part aux frais financiers. Parce que finalement, c'est cet ensemble-là, cet équilibre-là qui fait que l'entreprise va pouvoir croître. Et l'année dernière, on a investi en termes de croissance. Et cette croissance-là, elle est aussi extrêmement importante à visualiser pour nos salariés, parce que c'est cette croissance d'aujourd'hui qui génère les profits de demain, les emplois d'après-demain. Et c'est ce cercle vertueux dans lequel nous investissons beaucoup.
Merci.
Philippe.
Puisqu'on a parlé partage, de peut-être vous emmener sur un autre sujet, puisque comment aujourd'hui une entreprise de votre taille et surtout internationale, comment vous travaillez en tant que global, puisque vous êtes global, comment vous implémentez des politiques internationalement? Nous, évidemment, chez ADECO, on sait que les législations sociales, humaines sont très, très différentes, même à l'intérieur de l'Europe. Donc, comment vous, sur un projet d'entreprise comme celui-là, comment vous arrivez à être ce qu'on appelle maintenant local, c'est-à-dire arriver à passer quelque part un projet comme ça dans des pays aussi différents que l'ensemble des pays où vous travaillez?
Bonne question.
Je pense que le sujet de l'équilibre entre le global et le local, c'est le sujet le plus compliqué pour tout groupe international, parce qu'on a tous besoin d'avoir une certaine transmission des valeurs, d'avoir des politiques communes, d'avoir des process et des outils communs. Mais si on va trop loin dans ce sens-là, d'une part, on perd de vue le contact avec la réalité, on n'est pas capable de s'adapter à la diversité des situations, et puis surtout, on va finir par brider et limiter beaucoup la créativité. À l'inverse, si on va trop loin dans l'initiative, eh bien, on perd de vue le bénéfice de la taille. Donc, cet équilibre-là, je ne sais pas si on l'a bien trouvé, mais c'est vrai que c'est un gros travail qu'on a fait. Quand on regarde notre politique d'actionnariat salarié, c'est une politique qui vise justement à avoir une approche complète et commune et uniforme et qui vise à faire briller le logo d'Engie dans les yeux et dans le portefeuille de nos collaborateurs. Maintenant, quand il s'agit des politiques RH, on a fait tout un travail pour redéfinir qu'est-ce qui devait être une façon de faire commune dans l'organisation, et qu'est-ce qui pouvait être complètement laissé à la liberté des entités. Et ça, ce travail-là, par exemple, je vais vous donner un exemple concret, sur le télétravail. Sur le télétravail, on a défini 2-3 règles globales, hein, extrêmement claires, et on a dit ça, c'est des lignes qui sont communes à toute l'organisation. Nous sommes une entreprise où plus de 70% des collaborateurs sont liés à des entités, à des postes opérationnels, et donc ne peuvent pas télétravailler. Donc le télétravail est quelque chose sur lequel on doit avoir une cohérence d'entreprise. Après, pour les postes qui sont ouverts à cette flexibilité-là, c'est important qu'on ait cette flexibilité. Mais comme on est une entreprise qui travaille beaucoup sur des projets complexes, nous devons et nous voulons avoir une présence grégaire. Donc, nous avons dit, c'est la majorité du temps sur le lieu de travail, 3 jours par semaine. Les 2 jours restants, selon les emplois, les activités peuvent être flexibles. Et nous avons déployé cette politique-là. Après, la façon dont c'est fait dans une entité, c'est la responsabilité du management. Et c'est là où on doit faire confiance. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut voir un petit peu comment ça se passe.
Sylvain.
Bonjour Jean-Sébastien. Alors, je crois qu'il y a un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Et chez Engie, vous avez quelques longueurs d'avance, notamment sur la féminisation managériale. J'ai lu que vous aviez donc une femme CIO, 40% de femmes au conseil exécutif et l'ambition d'avoir 40% de femmes managers en 2030. Comment on fait chez Engie pour arriver à ces objectifs?
Alors d'abord, vous savez, c'est quelque chose qui est très intéressant à vivre au quotidien. Pour quelqu'un qui, comme moi, comme vous l'avez élégamment rappelé, a 35 ans d'expérience et qui a été extrêmement souvent dans sa carrière dans des milieux extrêmement masculins. Et aujourd'hui, je vis quelque chose qui est assez atypique parce que Engie est une entreprise qui a travaillé depuis très longtemps sur la féminisation et se trouve que très fréquemment, je suis dans des réunions où je suis seul homme, y compris à des très hauts niveaux. Et de voir comment on vit l'expérience d'une minorité, que j'avais vécue étant expatrié, mais vivre l'expérience d'une minorité me renvoie à l'expérience que j'ai fait vivre moi aux femmes à l'époque où elles étaient minorités. Donc la réponse à cette question, elle est d'abord d'avoir une conviction partagée du haut en bas de l'organisation, du fait que cette diversité n'est pas un gadget, mais cette diversité est un changement profond de culture de l'entreprise. Parce que pour arriver à faire cette diversité-là, ça veut dire que la majorité dominante doit comprendre qu'il y a un phénomène sur lequel on doit changer et on doit passer à l'évaluation par les compétences et non pas la reproduction d'un modèle existant. Donc, je le dis très facilement en une phrase, mais c'est des années de travail. C'est des années de programmes de formation, de communication, d'incentives, de bonus et d'actions concrètes. Et après ça, quand vous commencez à avoir une taille critique, ben vous êtes dans un phénomène qui est relativement vertueux parce que vous avez des femmes leaders qui sont à des postes à responsabilité, qui incitent à la promotion de femmes à des postes à responsabilité et vous commencez à avoir un début de chaîne vertueuse qui fait que, bizarrement, vous voyez des femmes qui sont maintenant candidates, veulent vous rejoindre de l'extérieur ou en interne disent « mais si c'est possible, ça m'intéresse également ». Et donc, vous commencez à avoir quelque chose, on en est au début de ce phénomène-là, d'avoir une dynamique positive. En attendant, on est passé par des quotas, des objectifs, de la pédagogie, de la formation. Et on a effectivement une longueur d'avance, pas seulement parce que Catherine McGregor est la CEO, mais parce que mes prédécesseurs ont fait un très gros travail là-dessus et qu'on a une forme de persistance dans l'effort. Mais c'est quelque chose qui est assez fascinant à vivre de l'intérieur.
Bonjour Sébastien, après ces quelques années de DRH, c'est quoi le plus beau métier du monde alors? C'est animateur radio ou DRH?
C'est cuisinier.
C'est vrai qu'on aurait pu, si on avait eu le temps, parler cuisine.
Définitivement.
Vous êtes formidable en tout cas, merci beaucoup. Merci également à vous Marc, Philippe et Sylvain, fin de ce numéro d'HRD Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes LinkedIn. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité.
L'invité de la semaine de HRD Radio, une production B2B Radio, en partenariat avec Julie Sterwen, Barthélémy Avocat, le groupe NR, l'école IGSRH et Lefèvre d'Alose.